Océane. Légende bretonne.
Et retrouvons Claude Guy Onfray aujourd'hui, lui qui était déjà avec nous la semaine dernière pour évoquer cet ouvrage, Châteaux et manoirs hantés de Bretagne aux éditions Stéphane Batigne. Il y a recensé 40 sites à travers toute la Bretagne historique. On est allé à Trévarez, à Châteaubriant. Aujourd'hui, il nous parle de la méthode qu'il a employée pour construire cet ouvrage. Vous saurez si lui-même d'ailleurs a fait des rencontres troublantes en visitant ces lieux. Mais d'abord, un nouveau château et donc une nouvelle histoire de Dame Blanche plutôt sordide du côté de la forêt de Brocéliande. Claude Guy Onfray.
C'est ça, donc la célèbre forêt de Brocéliande et ce château de Tréfesson qui est magnifique avec ses tours qui se reflètent dans un lac. C'est toujours un lieu de promenade assez remarquable.
Alors, j'ai vu qu'on parlait d'ailleurs du plus beau château de Brocéliande pour Tréfesson.
Oui, en effet. Donc autour de ce château, il y a de multiples légendes, au moins trois légendes d'apparitions, mais qui sont pour deux d'entre elles plutôt récentes. Mais l'une d'elles a une certaine ancienneté, donc la Dame Blanche de Tréfesson, qu'en est-il? Eh bien, on trouve dans des écrits du début du XIXe siècle cette histoire singulière de braconniers qui étaient dans la forêt, donc en pleine nuit, et tout à coup, ils voient apparaître une voiture à cheval, des hommes en descendre, et qui tiennent par la main une jeune femme en robe de mariée. Ils la poussent de force vers une fosse, et ils l'obligent à s'allonger dans cette fosse, et la recouvrent de terre, étant vivante. Donc ils enterrent cette femme en lui disant qu'elle n'était plus digne d'être parmi eux dans leur famille. Et les braconniers ne savent pas quoi faire. Ils hésitent à se faire connaître parce qu'ils étaient là en toute illégalité. Puis ils finissent au petit matin par aller voir le propriétaire du château de Tréfesson qui vient sur place. Bon, la victime est déterrée, mais évidemment, elle était morte. Et elle est enterrée à ce moment-là dignement, mais sa robe est conservée à ce moment-là dans la chapelle du château de Tréfesson et est restée donc assez longtemps exposée dans cette chapelle. Et c'est fait, d'après la tradition orale dans la famille du propriétaire, ces faits auraient trouvé leur origine à peu près sous le règne de Louis XV. C'était donc transmis encore jusqu'au
fil des siècles
et au XXe siècle. Voilà, c'est l'origine de cette Dame Blanche de Tréfesson, cette jeune mariée enterrée vivante.
Des histoires incroyables et remplies de détails. Qu'est-ce qui vous fascine le plus, vous, d'ailleurs, finalement, dans tous ces lieux? Est-ce que c'est plutôt la pierre, le monument en lui-même, ou j'ai l'impression de déjà connaître la réponse, ou alors toutes ces histoires qu'il renferme, justement?
Oui, d'abord les histoires. Comme disait François René de Châteaubriant, cette fois, il disait les histoires de fantômes sont transmises par les grands-mères. Les grands-mères sont souvent à l'origine de ces traditions orales. Et le seul moyen d'avoir pu retrouver ces traditions orales, c'est de retrouver les écrits qu'ont laissés des écrivains ou des ethnologues qui nous ont permis de conserver intact tous ces souvenirs. Et bon, je pense à un personnage important qui est Paul Sébillot, qui est donc un des pères de l'ethnologie en matière de croyances populaires. Et il a fait un travail scientifique pour recenser et identifier les lieux et les personnes qui transmettaient toutes ces traditions orales. Voilà, Paul Sébillot est une mine donc pour tout ce qui concerne ces histoires de fantômes.
Et justement, alors racontez-nous peut-être un petit peu plus en détail ce travail que ça a représenté pour vous de recenser, de mettre en lumière dans ce livre tous ces sites emblématiques. Quelle a été votre démarche simplement? Comment vous avez procédé?
Au départ, j'ai travaillé dans ma bibliothèque. Bon, j'ai une bibliothèque où il y a quand même pas mal de livres, donc je connaissais déjà de mémoire un certain nombre de
légendes, d'histoires,
de légendes dans ce domaine. Alors, Paul Sébillot a été effectivement un intermédiaire très précieux parce que lui-même a recensé nombre de châteaux où de tels phénomènes se sont produits parmi tous les collectages qu'il a pu réaliser. Voilà, donc ce sont des éléments de départ qui m'ont aidé. Et puis, Internet aussi est une aide dont on ne peut pas se priver, bien sûr, de nos jours. Et notamment, le site Gallica de la BNF, qui permet d'accéder à des ouvrages assez peu faciles d'accès de nos jours parce que assez rares. Et donc, on peut retrouver des textes donc sur ce site.
Et dans tout ce travail donc de recherche, de visite aussi, j'imagine, sur les lieux, hein, vous l'évoquiez un petit peu, sur les lieux en question, est-ce que vous, personnellement, certaines choses vous vous aurait troublé. Est-ce que vous avez fait des rencontres inattendues dans ces différents sites?
Ah, ben, je dois vous dire que je n'ai pas rencontré de fantômes. Non, je n'en ai pas rencontré. Cela étant, j'ai un ami qui est pourtant quelqu'un de très, très rationaliste, mm-hmm. qui se défendait toujours d'être influencé par des histoires de ce type, qui m'a affirmé qu'il s'est trouvé face à face un jour dans sa demeure avec un être venant d'une autre époque, voilà. Ce n'est qu'un témoignage indirect.
C'est un témoignage indirect, mais de la part de quelqu'un qui serait a priori plutôt cartésien, hein, vous le disiez au départ.
Donc, ben, c'est voilà. Ça, c'est ça. Donc, je dirais, on peut pas. Je ne prends pas position dans le livre, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais je crois qu'il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert à des phénomènes qui sont actuellement inexpliqués, mais que les recherches permettront, je pense, à un moment donné, de pouvoir analyser d'une manière plus complète.
Ouais, en restant ouvert, ça ajoute certainement au plaisir d'aller visiter ces différents sites et de découvrir votre livre. Dernière question, vous avez recensé pas moins de 40 sites dans la région. Est-ce qu'ils y sont tous, selon vous, ou alors il y en a bien d'autres encore, et un deuxième volet, pourquoi pas, pour être en prévision?
C'est une grande question. Bah, effectivement, je ne pense pas que c'est pas exhaustif. Effectivement, c'est pas exhaustif. Mmh. Et il m'arrive de rencontrer, lorsque je fais une séance de signature dans une librairie, des personnes qui me parlent de tel ou tel lieu, effectivement, où il s'est passé telle ou telle chose. Mais donc, effectivement, il doit exister d'autres lieux. Mais dans la démarche que j'ai suivie, j'ai souhaité m'appuyer sur des écrits existants. Alors, il est difficile, sans doute, de trouver d'autres lieux, mais il doit en exister. Mais bon, ça reste l'objet d'un nouveau travail qui sera peut-être encore à poursuivre.
Et à approfondir, pourquoi pas, en attendant, châteaux et manoirs hantés de Bretagne. C'est aux éditions Stéphane Batigne. Merci beaucoup, Claude Guy Onfray.
Merci beaucoup.